Donc, depuis le début de. Depuis le mois de juin, on a commencé, le mois de juin, de parcourir les six chapitres de la première épître à Timothée, pardon. Et il nous restait les deux derniers versets que j'avais laissés de côté, le verset 20 et le 21. Alors, je vais les lire. Cher Timothée, c'est l'apôtre Paul donc, qui écrit à son fils spirituel Timothée, qui est à Éphèse, qui a des responsabilités là-bas. Cher Timothée, garde le dépôt qui t'a été confié. Évite les bavardages profanes, les objections de la pseudo-connaissance. En s'y engageant, certains se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Ça, c'est la traduction second 21. Et si on prend la seconde classique, cela fait ceci. Ô Timothée, garde le dépôt. En évitant les discours vains et profanes, les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi et qui terminent ainsi, que la grâce soit avec vous. Que la grâce soit avec vous. Donc, deux petits versets, je vais y revenir à la fin du message. Je voudrais, pourquoi cette série a été mise en place? Parce que nous avions au printemps, au mois de mai, la nomination de Patrick comme ancien de l'Église. Et donc, dans ce cadre-là, il était important de clarifier ou de préciser ou de répéter une nouvelle fois ce qu'était un ancien dans une Église. Et donc, on a parcouru tout cette première épître à Timothée. Alors, je ne veux pas tout rebalayer, mais je voudrais apporter des précisions que l'on trouve ailleurs pour compléter un petit peu le portrait de ces anciens. Et je reviendrai sur quelques focus des choses qui me semblent importantes. Alors, ancien, pasteur, évêque, trois mots qui désignent la même personne. Ancien, pasteur, évêque, trois mots pour désigner la même personne. On ne s'était pas attardé beaucoup sur ce point-là. Dans la parole de Dieu, donc, on trouve en ce qui concerne la Nouvelle Alliance et l'Église en particulier, on trouve, concernant les responsables de l'Église, trois mots. Le premier, c'est ancien. C'est celui que l'on retrouve le plus souvent, une quinzaine de fois, j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment le mot clé, le mot de tête. Alors, ancien, dans le grec, c'est presbyteros, qui se traduit dans le langage de tous les jours comme vieux, âgé, ou senior, ou troisième âge, ou cheveux blancs. C'est ce vieillard même. C'est ce mot-là qui avait été choisi comme ancien. Alors, ça vient du judaïsme, bien sûr, puisque l'Église est une prolongation elle est fondée, enracinée dans la Nouvelle Alliance, et donc on retrouve dans l'Église un petit peu ce qui existait alors dans le judaïsme, avec ce mot ancien que vous avez l'habitude si vous êtes des lecteurs de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, vous le trouvez régulièrement, la mention de ce mot ancien en ce qui concerne les responsables du peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il évoque ce mot? Le choix de ce mot ancien, ben l'ancien, c'est celui qui est là depuis longtemps, donc, et qui, donc il a la mémoire du passé, il a l'expérience, et il a également des choses à transmettre. C'est un petit peu comme ça que, je pense, se voient les personnes âgées. Elles rabâchent toujours les choses du passé. Et puis elles ont vécu des choses, elles ont de l'expérience et elles ont des choses qu'elles souhaitent transmettre également, une passation de relais. Donc c'est cette idée-là, je pense, qu'il y a derrière le choix de ce mot ancien. On trouve également un autre mot qui est berger ou pasteur. Alors là, c'est plus subtil quand même. Poimen. Alors c'est le berger, généralement il est traduit dans nos traductions, dans nos bibles, par berger. Hein. Le berger, c'est celui qui a le métier de s'occuper d'un troupeau de brebis ou d'un troupeau de chèvres ou d'un troupeau de vaches, bref, d'un troupeau. Choisissez l'animal que vous voulez, c'est le berger. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'occuper de pourvoir aux besoins du troupeau, il doit également le protéger contre les prédateurs et il doit soigner les brebis ou les animaux qui sont malades et qui ne sont pas en bonne santé. Donc derrière ce mot berger, il y a l'idée de conduire, de soigner et de protéger. Donc, deuxième mot après le mot ancien, l'expérience, la mémoire du passé, des choses à transmettre, donc, cet autre mot, berger, celui qui conduit, qui soigne, qui protège. C'est un mot qui est un petit peu particulier parce que être berger, c'est un don de Dieu. Hein? Dans Éphésiens 4, 11, on lit ceci, Christ a donné des hommes, il a donné des hommes, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs, et donc comme bergers et docteurs, donc. Et donc, c'est un don de Dieu, c'est un petit peu l'idée qu'il y a là derrière ce mot berger. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on appelle le pasteur, le responsable d'une église, c'est le pasteur. Ça désigne la personne qui a été consacrée par Dieu, donc qui a été donnée en quelque sorte pour diriger l'église. Alors, c'est un petit peu un raccourci là qui est fait. Le terme qui devrait être utilisé, c'est le terme ancien. Mais bon, l'histoire de l'Église fait que c'est le mot pasteur que le monde séculier connaît et dans de nombreuses églises également. C'est ce terme-là qui est utilisé. Pasteur, donc. Ce qui est certain, c'est que les anciens sont des pasteurs. On lit ça en Actes 20, 17, 28. C'est très clair dans ce passage-là. Vous pouvez prendre et le lire avec moi. Actes chapitre 20, verset 17 et verset 28. On va lire deux versets. Donc, dans le contexte, c'est Paul qui est justement à Éphèse et qui doit, c'est son dernier passage à Éphèse, et là, il doit prendre congé de l'Église et il ne veut pas s'arrêter à Éphèse, il ne fait que passer. Actes 20. Verset 17. Cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église, et qu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit. Donc, il fait appeler les anciens et il leur parle là. Et donc, tout le texte les concerne particulièrement. Et au verset 28, nous lisons ceci. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Et donc là, on voit bien que l'ancien a cette responsabilité pastorale. Hein. L'ancien est un pasteur. Pierre, lui, se présentait le premier des celui qui avait le lead dans les apôtres, hein, dans sa lettre, il se présente lui-même comme un ancien. Dans la, on a, c'est l'an dernier qu'on parcourait cette épître, et je vais lire les 5 premiers versets, chapitre 1, verset 4. Je vous encourage à venir chercher ce texte, 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Pardon, je mélange un petit peu. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et il ajoute, paissez, faites paître le troupeau de Dieu, en fait ce travail pastoral auprès du peuple de Dieu, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui sont échus en partage, mais en étant le modèle du troupeau, et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc on voit, mon ancien et pasteur, c'est exactement la même chose, c'est les deux mots qui concerne les responsables d'église. Et l'autre, c'est évêque. On l'avait trouvé dans l'épître à Timothée, celui qui aspire à la charge d'évêque, aspire à une œuvre excellente. Je suis en train de tourner le texte. Je vais le relire. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Donc évêque, c'est épiscope, et donc là, ça veut dire un visiteur ou un surveillant. Épiscopé, c'est visiter quelqu'un, c'est en quelque sorte, hein, c'est un mot, un verbe à la fois, en même temps. Donc l'évêque, c'est celui qui jette un œil, hein. Il jette un œil sur les brebis, voilà, il ne les perd pas de vue, il jette un œil, voilà, il les surveille. Hein. C'est un petit peu comme le pion, hein, qui est la responsabilité de... Voilà, il y a les élèves là qui sont en train de faire leur devoir de mathématiques, et puis le pion, lui, il surveille, il regarde, tout se passe bien. Et donc, il s'agit bien de la même personne que l'ancien. Avec le catholicisme, l'évêque est placé au-dessus du curé, qui est en dessous, il y a une hiérarchie qui est placée, mais dans la parole de Dieu, c'est bien présenté comme une même, seule et même personne. Et on voit ça très bien dans l'épître de Tite, chapitre 1, verset 5 à 9, que je vous encourage également à aller voir. L'avantage de voir dans la Bible, c'est que ça favorise la mémorisation. Tite chapitre 1. Donc, c'est un épître un petit peu parallèle, l'épître de Tite, puisque c'est pas Paul qui écrit à Timothée, mais qui écrit à Tite, qui est dans un autre endroit. Donc, il avait laissé Timothée à Éphèse, et là, il avait laissé Tite à Crète, sur l'île. Chapitre 1, verset 5. « Je t'ai laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelqu'un irréprochable, mari d'une seule femme ayant des enfants fidèles qui ne sont pas accusés de débauche ni rebelles. » Verset 7. « Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qui soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter, d'encourager, de consoler selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc on voit ici, c'est les mêmes critères d'évêque, plus ou moins que ce qu'on avait vu dans l'épître à Timothée. Et donc on voit ici, tu dois établir des anciens et il faut que l'évêque, et donc il s'agit bien, on voit bien qu'il s'agit exactement de la même personne. Un autre point important à souligner en ce qui concerne l'ancien, c'est la collégialité, la fameuse collégialité. Partout, donc ce mot ancien qui vient du judaïsme, partout, vous le verrez au pluriel. Chaque fois qu'il désigne les responsables d'une église locale, on vient de le lire ici, tu établiras des anciens dans chaque église. Et chaque fois, donc, il a fait venir les anciens, Paul avait appelé les anciens d'Éphèse pour venir à sa rencontre. Et donc, chaque fois, ce mot est au pluriel. Donc, ils sont plusieurs. Il y a ce qu'on appelle une direction dans l'église, une direction collégiale. La direction des églises locales doit être plurielle, assurée par un collège, collège d'anciens, collège de pasteurs, collège d'évêques, on peut l'appeler comme on veut, bref. C'est un collège. Pourquoi cela? J'ai vu quatre points. Je vous propose quatre points. Vous connaissez le proverbe. Hein, le proverbe. Je sais pas comment. Bon, on a coutume de dire dans tout ce qui concerne le travail qui doit être accompli, qu'ensemble on va moins vite, mais on va plus loin. Ou seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et le but de l'église locale n'est pas d'aller vite, mais d'aller loin. Le but, c'est de durer dans le temps, d'être résistante, d'être endurante jusqu'au retour du Seigneur. C'est ça le grand objectif. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12. Il y a ce beau verset que vous connaissez, on l'applique souvent au couple, mais il correspond très bien en ce qui concerne les anciens d'une église, et nous ici à Figeac en particulier. La parole de Dieu dit ceci, « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux on tire un bon profit du travail. En effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. » De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister, et la corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Donc le nombre d'anciens n'est bien sûr pas limité à deux. Mais deux, c'est déjà le pluriel. Proverbe 15, 22. Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, la parole de Dieu voit la direction de l'Église comme étant collégiale selon le modèle qui était déjà en place dans le judaïsme. Également, j'ajouterai quelque chose. Vous savez que nous avons un Dieu trinitaire. Un Dieu qui est un, mais qui est en trois personnes distinctes et différentes. Et également dans la collégialité, on va pouvoir retrouver un petit peu de cette image-là, hein, d'être une direction qui est unie, qui est unique, mais qui est composée de plusieurs personnes en même temps. La collégialité, donc, dans la parole de Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile à mettre en place, parce que les personnes, elles ont des égos, hein, vous savez comment l'être humain est constitué, et c'est pas toujours facile, c'est pas toutes les églises qui arrivent à plus ou moins, alors chaque église fait de son mieux, mais on a le modèle des anciens, le mot pluriel, la collégialité. Je voudrais dire un mot également des ministères transversaux, des ministères transversales. On a vu dans le tout au début, donc Si vous prenez le livre des Actes, vous verrez que Jérusalem était dirigée par les apôtres et les anciens. Chaque fois, Luc, dans sa narration, fait référence aux apôtres et aux anciens. Les apôtres, ce sont ceux qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ ressuscité et qui l'ont entendu dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples hein, ». Ce sont des envoyés. Ils ont été des témoins de la mort, de la résurrection de Jésus. Et ils sont envoyés par lui. Mais ils ne sont plus là. Par contre, les anciens restent. Quelle place a Timothée ou Tite ou Apollos? Alors, quand on parlait de Tite qui était chargé d'établir des anciens dans les églises, ou Timothée, ce qu'on a lu ensemble au chapitre 5, quand Paul écrit ceci. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sous la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Et on voit que là, Timothée avec une position par rapport aux autres anciens hein, dans l'église d'Éphèse. Il avait un petit peu une position de leader en quelque sorte, ou je sais pas, en tout cas il avait une autorité. Et qu'est-ce qu'il en est de ceci? Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, je vais faire la lecture du texte que j'ai commencé tout à l'heure par rapport au don que Dieu a fait et à quoi ça sert et comment ça s'articule. Et on voit que don, Dieu fait des dons de ministères transversaux qui vont être communs à plusieurs églises locales. Alors, c'est Épître aux Éphésiens. J'espère pas trop vous assommer de versets ce matin. Chapitre 4. Donc, j'avais lu le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les uns comme Christ, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est l'ensemble de toutes les églises, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, la ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Alors comment ça se traduit ces ministères transversaux dans les églises aujourd'hui? Bon, il y a plusieurs systèmes d'églises, hein. Je vais vous les citer. Il y a trois grandes familles. Il y a le système épiscopal qu'on retrouve chez les catholiques et chez les anglicans. J'y faisais mention tout à l'heure. Il y a une hiérarchie cléricale. Et cette hiérarchie revendique son autorité de la succession apostolique, depuis l'apôtre Pierre, etc. Voilà, l'évêque de Rome a le lead sur l'Église catholique universelle, et avec ensuite un collège d'évêques. Système épiscopal, système presbytérien synodal. Donc ça c'est dans les églises protestantes réformées, c'est ce que Luther, surtout Calvin avait mis en place au moment de la réforme. Donc il y a les églises locales et au-dessus des églises locales il y a le synode qui est constitué de représentants élus de chaque église. Chaque église locale envoie des représentants qu'elle élit pour représenter l'église au synode, et là dans le synode se prennent les décisions. Et il y a le système congrégationaliste, ça c'est celui qui est adopté par les églises évangéliques généralement. Et donc les églises locales sont autonomes, elles sont indépendantes, tout simplement. Et puis on trouve des systèmes intermédiaires un petit peu qui font des mélanges, hein, comme chez les CAEF, là, notre famille d'églises. Les églises locales sont indépendantes, mais elles reconnaissent l'autorité d'un groupe de frères qui s'appelle la CSR et qui est chargé d'administrer tout ce qui est mutualisé entre les églises, les centres, ça peut être les outils de formation, tout ce dont on a besoin et qu'une église locale à elle seule ne peut pas faire. Et également, les églises locales peuvent faire appel à ce fameux conseil de la CSR, conseil de service et de référence, quand ils ont des difficultés qu'ils rencontrent à l'intérieur de l'église. La CSR peut intervenir et essayer de résoudre et d'aider les églises à avancer. Donc, il y a plusieurs systèmes qui existent un petit peu avec ces ministères transversaux qui sont, voilà, ce sont des anciens un petit peu spécialisés qui ont un rôle, un don, des dons très particuliers qui vont servir, comme les évangélistes aussi, hein, qui vont servir à plusieurs églises locales. Notre point, donc, après avoir vu ce qui concerne l'ancien pasteur, une seule et même personne, je voudrais retenir, comme on est dans les Jeux Olympiques, ce sont des lutteurs, hein. Il y a un combat. Alors, j'ai été trop bavard, trop de versets à lire. Je ne sais pas si je vais citer les passages, je vais en retenir peut-être une paire. Donc Hébreux 12, 1, 4, donc c'est ce passage qui encourage à lutter contre le péché. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. 2 Corinthiens 10, 3, 6, qui parle des luttes de l'apôtre Paul pour les églises. Je vous le lis. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous abonnons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, cette travail de lutte qu'il y a dans les Colossiens, également un petit peu plus loin, chapitre 1, verset 24 à 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonce pleinement le mystère de Dieu. Un petit peu plus loin. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, instruisant tout homme et toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et il ne s'agit pas de Paul seulement, mais également des anciens, puisqu'il fait référence à Épaphras, l'ancien de l'église de Colosse. On lit ceci. Chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Dans la deuxième Timothée, chapitre 4, verset 2 à 8. prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur. C'est pas le 4 qui me dit. Excusez-moi. Je reviendrai plus tard. On ira un assis, ce sera mieux. C'est une idée de combat. Est-ce que vous avez suivi les Jeux Olympiques, hein? Dans les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de combats. Et des personnes qui s'affrontent dans des combats pour gagner les fameuses médailles. Et les sports, c'est vrai qu'il y a les sports individuels, mais il y a beaucoup de sports qui sont des combats. Alors bien sûr, vous avez lu à travers ces textes qu'on ne combat pas des personnes, mais il s'agit de combattre le péché, qui combattre des idées. Et le combat, donc, contrairement aux Jeux Olympiques, ne se termine pas dans la vie terrestre, mais le combat, c'est un combat qui se terminera dans le ciel. C'est justement ce message-là, cette partie-là que je voulais lire. Dans 2 Timothée 4. Voilà, je l'ai retrouvé. Pour moi, je sers de libation. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Les anciens peuvent avoir leur propre lutte, leur propre combat, mais il y a une différence avec les autres frères et sœurs, c'est qu'ils ont le rôle de coaching. Dans tous ces athlètes qu'on a vus, ils avaient des coachs, ils combattaient, mais ils avaient des entraîneurs, ils avaient des personnes qui les préparaient, qui les encourageait, qui les soutenait, qui les conseillait, et souvent, dans un moment ou un autre du combat, ils allaient se retirer quand il y avait une pause, et là, ils recevaient les encouragements, la motivation du coach. Et le rôle de l'ancien ressemble beaucoup aussi à cela. Le combat, tout le monde est dans le combat. Et les rôles des anciens, c'est d'être de bons entraîneurs, des personnes qui vont motiver, qui vont donner l'exemple également dans ces combats, qui vont avoir la crédibilité pour qu'on leur fasse confiance. Hein. Il y a un point commun également entre les combattants des Jeux Olympiques et les chrétiens, et les anciens en particulier, c'est la souffrance. Vous avez vu ces athlètes, ces commentent dans les combats, leur visage montre la souffrance. Ils se donnent à fond, les combats, ça dure des fois très longtemps, et il y a de la souffrance. Et dans les combats, il y a également de la souffrance. L'apôtre Paul l'exprime très très bien. Dans la deuxième aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. Je lis ceci. J'ai été, écrit Paul, dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid, à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui tombe, que je ne brûle? 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 6. Toi donc, mon enfant, c'est la deuxième lettre qu'écrit Paul à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes qui soient capables de l'entendre, verset 3, et de l'enseigner aux autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souffre avec moi comme un bon soldat, un bon combattant de Jésus-Christ. Et donc l'ancien est un homme qui va souffrir plus que ses frères et sœurs. Il a ses propres luttes, il a ses propres souffrances qui sont le commun des croyants. Mais il y a des souffrances particulières qui sont liées à ce rôle et à cette fonction d'ancien. Il a une ration de plus. Et donc l'ancien, le pasteur, l'évêque, des lutteurs qui combattent, qui coachent et qui souffrent. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de candidats non plus, je ne sais pas. Je veux juste prolonger pour impliquer l'Église dans les quatre pièges à éviter. Dans notre deuxième épître à Timothée, première épître à Timothée, il y avait quatre gros pièges. Les anciens, les pasteurs évêques, ils ont eux aussi besoin d'être gardés. Ils ont eux aussi besoin de soins. Ils ont eux aussi, ce sont des hommes de chair et d'os. Et il y a quatre dangers qui les guettent, là, tout particulièrement. Perdre de vue l'amour de Jésus-Christ. Que leur amour pour Jésus-Christ se refroidisse. C'est le cas de tous les chrétiens. Hein? Le but de cette recommandation, c'est... on avait lu le but de cette recommandation. C'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Perdre de vue l'amour de Jésus-Christ, et c'est ce qui est arrivé à l'église d'Éphèse plus tard. Là, elle va recevoir une lettre dictée par Jésus-Christ qui va lui reprocher d'avoir abandonné son premier amour, abandonné l'amour de Jésus-Christ. Et un ancien ne doit pas perdre l'amour de Jésus-Christ. Ça semble évident. Mais c'est un danger qu'il va le guetter. Perdre de vue l'évangile, ça va avec. Combien de fois dans cette épître qu'on a lu, Paul rappelle à Timothée l'évangile. Il lui rabâche l'évangile, des choses qu'il avait, Timothée avait certainement entendues et des centaines de fois, il lui rabâche l'évangile. On ne doit pas perdre de vue la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui doit être centrale. C'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et il réaffirme ses vérités fondamentales. Un autre danger, perdre de vue l'évangile, les discussions inutiles. Alors on vient de le lire là dans notre texte. Hein. Les dernières paroles de Paul, il y est revenu à plusieurs reprises. Évite les bavardages profanes, les objections de la pseudo-science, évite les disputes de mots, les discours vains et profanes, tout ce qui ne sert à rien, finalement, qui ne font pas avancer l'évangile, qui ne font pas avancer l'amour dans l'église, tout ça, il faut se tenir loin de tout ça. Et c'est un vrai danger pour un ancien que de se perdre là-dedans. Ça crée des crispations, ça crée des histoires à n'en plus finir, et ça crée des divisions dans les églises, et donc des discussions inutiles. Il faut qu'ils s'en tiennent garde. Alors, comment arriver à faire la distinction entre défendre la saine doctrine d'un côté et de l'autre côté tomber dans les discussions inutiles et vaines. C'est une ligne de crête qui doit être tenue. En tout cas, il y a le moteur de ces faux prophètes, de tous ces enseignements, chaque fois de se mettre en avant, ces histoires d'orgueil, de moi j'ai raison, ma vision de la parole de Dieu est bonne, et donc tout ça, il y a derrière tout ça quelque chose qui relève de l'orgueil de l'homme, hein. Et donc là, il y a un vrai danger, un vrai piège dans lequel les anciens ne doivent pas tomber. Et le dernier piège, c'est l'enrichissement. Vouloir faire les choses pour soi-même. Et le but, donc, c'est de présenter toute personne à Jésus-Christ. C'est lui qui est qui appartient le troupeau. Paissez le troupeau de Dieu, a écrit l'apôtre Pierre. On va relire ensemble Luc chapitre 12, versets 15 à 21, qui est valable pour les anciens. La mise en garde contre l'enrichissement, comme rechercher un gain sordide. Quelqu'un dit à Jésus, chapitre 12, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, homme qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et il donne cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait à lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus gras, j'y amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera recommandée, ce que tu as préparé pour toi, pour qui est-ce que ce sera? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il s'agit ici des richesses matérielles, mais bien au-delà de ça. Vous savez que une des choses que poursuivent nos contemporains aujourd'hui, c'est le bien-être personnel. C'est la quête que beaucoup poursuivent, c'est être bien. Le bien-être personnel, l'enrichissement personnel qui n'est pas de l'argent, mais qui, voilà, être bien soi-même. Et ça, c'est un danger d'avoir du succès pour un ancien qui a du succès dans une église. Et voilà, et puis il va voir comme tout cela lui revenant à lui, et capter toute cette gloire qui revient à Jésus-Christ, il va la prendre pour lui, il va la prendre sur lui, et il va se la ressasser, se la repasser. Ah, combien quand même je suis spirituel, moi, combien quand même moi j'ai des bons résultats, ah, j'ai bien travaillé, j'ai vraiment fait beaucoup de réserves pour plusieurs années, maintenant je peux me reposer un peu. Cette idée-là n'est pas loin, hein. Et donc, il doit être en garde, cela. Il faut être riche pour Jésus-Christ. C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. Et un enrichissement personnel est un danger, des quatre grands pièges que l'apôtre a souligné à Timothée. Alors, ancien pasteur évêque à Figeac, il y a difficulté que j'avais et que, grâce à Dieu, j'y vois plus clair maintenant. Il y a quelque temps de cela, il y a longtemps même, c'était avant les années 2000, j'étais à l'église à Toulouse, à ce moment-là, il y avait un appel d'un responsable d'une église, c'était l'IBBL, c'était Bernard Daudeleur qui donnait ce, J'étais dans une église baptiste indépendante à l'époque. J'étais dans une église baptiste indépendante. Et donc, il y avait un message d'appel pour aller à l'Institut biblique. Et j'ai demandé au Seigneur, vraiment intensément, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois répondre à cet appel? Et j'ai bien clairement compris à ce moment-là, comme on a des certitudes des fois, quand on sait que Dieu nous parle, non, tu ne seras pas pasteur. Et ça a été pour moi un immense soulagement. Un immense soulagement. Et depuis, j'avais cette idée, non, je ne suis pas pasteur. Parce que Dieu m'a dit que je ne serai jamais pasteur. Mais bon, c'était pour moi l'idée que j'avais, c'était de quitter mon travail et partir par la foi faire des études à l'Institut biblique. C'était ça pour moi, être pasteur. Et donc, le Seigneur m'avait dit, non, non, ce ne sera pas ça. Et donc, j'avais été tellement soulagé, je me rappelle à l'époque. Et il n'empêche que un ancien est un pasteur. Et voilà. Et dans les petites églises, le défi de la rémunération est un sujet qui est un petit peu spécifique à ces églises-là. Hein, les anciens dans les petites églises, c'est rare qu'ils soient salariés parce que l'église est trop petite. S'il n'y a pas de soutien extérieur, elle ne peut pas le faire. Est-ce que c'est une anomalie? Donc de pas avoir une personne qui soit dédiée pour faire le travail pastoral, qui soit à plein temps ou à mi-temps ou à quart de temps ou je ne sais quoi, mais qui soit consacré, qui soit soutenu par l'Église, comme l'apôtre Paul le recommandait, on l'a vu dans la lettre à Timothée. Ben ils sont un petit peu dans la situation que de la Crète, lorsque Tite est venu, il a fait le tour de toutes les églises de Crète pour mettre en place des anciens dans chaque église. Les anciens, ils étaient là et ils n'étaient pas rémunérés. Et ils avaient leur travail et ils ont eu les deux à faire en même temps. Donc, les petites églises, souvent, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça, de façon, voilà. Elles ont également un autre défi, les anciennes et petites églises, dont il y a le problème de la rémunération, du temps, de la rémunération. Et il y a le problème également de l'intégration des personnes qui viennent, je parlais de toutes ces églises qui étaient différentes. Comment intégrer des personnes qui viennent dans une petite église, parce qu'il n'y en a pas d'autres autour, parce que c'est la seule du coin, et qui viennent d'origines ecclésiales différentes, qui ont d'autres expériences. Et ils se retrouvent là avec des personnes dans les grandes villes, et chacun choisit son église en fonction de ses affinités, mais dans une petite ville, il y a une petite église et on n'a pas le choix, il n'y en a qu'une. On peut aller qu'à une, des fois il y en a deux, comme à Figeac, mais voilà, c'est tout, c'est limité. Et donc il y a un vrai défi pour les anciens, pour pouvoir accueillir et faire grandir tout le monde, alors qu'on parle derrière les mêmes mots, il n'y a pas toujours le même sens qui est donné. Ancien pasteur évêque à Figeac, je vous laisserai des sujets de prière, deux sujets de prière pour moi personnellement. On a vu que l'ancien, il a besoin d'être gardé, il a besoin d'être soutenu par les prières des frères et sœurs. Il est que ce qu'il est, hein. Et donc, moi personnellement, maintenant qu'il y a Patrick qui est là, j'ai tendance à relâchement. Et c'est pas bon du tout pour moi. J'ai besoin de fonctionner avec de la pression. Et je fonctionne par des successions de défis. Hein, voilà. Voilà, de prier pour que je ne sois pas moins productif pour le Seigneur. C'est pas parce que y a Patrick qui est là que moi je dois en faire moins du coup. Voilà, de prier pour ça. Parce que c'est dangereux pour ma vie spirituelle, tout simplement. Et donc pour l'Église aussi, par voie de conséquence. Également de demander au Seigneur que je sois un homme de prière plus assidu, plus consacré dans la prière, comme je dois avoir maintenant un petit peu plus de temps. Et donc que ce temps soit bien utilisé pour prier. Je ne sais pas si Patrick, tu as des sujets à soumettre.
Ah, mais bien sûr, bien sûr. En plus que, comme Pascal vous l'a expliqué, nous avons besoin de vos prières Ce travail serait impossible sans le Seigneur et sans vos prières. Et d'autant plus qu'effectivement, nous sommes bergers, donc je retiens deux qualités principales, c'est de s'occuper du troupeau et d'être carré, fidèle à la parole de Dieu. Mon premier sujet, c'est que dans nos prédications, on soit fidèle à la parole de Dieu. On dise fidèlement ce que la parole dit, voilà, même si ça va à l'envers du temps, mais qu'on soit fidèle à la parole de Dieu pour mieux la transmettre. Ça, c'est mon premier sujet. Et puis le deuxième sujet, ben, vous avez entendu le rappel qu'a fait Pascal sur que nous avons fait sur le profil de l'ancien. Alors, nous ne sommes pas des surhommes. On n'est pas des surhommes. Et bien que notre vie, puisqu'il y a des combats, qu'on sache mener les combats de la bonne manière, sans nous tromper d'ennemis, et puis qu'on ait un. Qu'on soit comme le Seigneur veut qu'on soit dans notre vie, dans ma vie personnelle et dans ma vie de couple, dans ma vie aussi de collaboration avec Pascal. Et voilà, d'être ce profil-là, il est, en nous rappelant que ce profil est demandé à tout chrétien, irréprochable, c'est demandé à tout chrétien. Sauf que nous, effectivement, on est sur le devant, vous nous voyez, et on a besoin de vous et de vos prières. Voilà, donc fidélité à la parole de Dieu, et puis d'avoir une vie qui corresponde aux critères que la parole donne pour les anciens.
Voilà. Donc je terminerai avec le dernier verset. Hein. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Logiquement, on s'attend à ce que ce soit que la grâce de Dieu soit avec toi, puisqu'il est écrit à Timothée. Mais il y a un manuscrit qui est comme ça. Mais là, les autres, la plupart des manuscrits marquent que la grâce soit avec vous. Cette lettre donc n'est pas seulement disposée, n'est pas seulement destinée aux anciens ou à Timothée ou aux anciens, mais elle est destinée à toute l'Église. C'est toute l'Église qui doit s'approprier aussi de ces vérités. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et c'est rassurant que l'apôtre termine par ceci, la grâce de Dieu. C'est pas par nos forces, ce sera pas par nos forces si les choses pourront avancer, si l'édification du corps du Christ pourra se faire, son accroissement, ce sera par la grâce de Dieu, ce sera par l'Esprit de Dieu que cela se fera. Et donc c'est important de pouvoir prendre avec nous cette dernière, la façon dont Paul termine, que la grâce de Dieu soit avec toi. Chacun personnellement, que la grâce de Dieu soit avec vous, avec nous. Et Amen. Et qu'il en soit ainsi. Dieu est avec nous. Seigneur, je me rends compte que j'ai été très long. Merci pour notre Église, Seigneur. Merci de renouveler la joie d'être ensemble, la joie de se motiver les uns les autres. La joie d'avancer ensemble, de vivre ensemble une vie d'Église riche, pleine, bénie, de nous encourager et de veiller les uns sur les autres. Et puisque Patrick et moi, on a un rôle particulier, Seigneur, fais-nous grâce pour que ton Église soit bénie ici à Figeac et qu'elle soit enrichie et qu'elle grandisse pour son bonheur et pour ta gloire. Par Jésus. Amen.
Amen. Amen.